VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire fait aujourd'hui à Abidjan de la réunion de deux jours des ministres de la Sécurité du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Les ministres ont discuté des moyens de renforcer leur coopération après les attentats terroristes de Bamako, Ouagadougou et Grand Bassam, la station balnéaire ivoirienne. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Les quatre ministres ont convenu de combiner leurs efforts, de partager des renseignements, de mettre en œuvre une réponse commune au sein de leurs services nationaux et aussi d'uniformiser la législation pour de meilleurs contrôles aux frontières. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reconnu qu'il y avait eu auparavant coopération entre les quatre pays, mais qu'il s'agissait de travailler encore plus étroitement après les récentes attaques terroristes au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Les ministres des quatre pays ont également décidé de pousser les pays ouest-africains à appliquer un système de cartes d'identité biométrique pour mieux suivre les mouvements des gens dans la région. Le ministre malien de la Sécurité, Salif Traoré, a renchéri : nous ne devrions pas penser que l'on est assez bien préparé et qu'il n'y aura plus de problèmes. Il y aura toujours des problèmes, des défis, et nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé. Les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques récentes dans la région. Le ministre sénégalais de l'Intérieur, Abdoulaye Diallo, dont le pays a été jusqu'ici épargné, a dit prendre très au sérieux la menace.
Guinée-Bissau, l'instabilité politique est en train de bloquer le soutien promis par les donateurs internationaux au pays lors de la table ronde de Bruxelles l'année dernière. Le point avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
L'information a été donnée par le ministre de l'économie et des finances de la Guinée-Bissau, Gérald Martins, faisant allusion au bilan de la première année après la table ronde organisée en Bruxelles en mars 2015. Gérald Martins a regretté le malentendu qui a causé l'inaction du gouvernement en faveur des engagements avec le peuple bissau-guinéen. Mais Martins a dit qu'en raison des efforts remarquables de l'exécutif, la productivité du gouvernement ne peut pas être considérée comme négative. 50% de performance est la classification donnée par le ministre de l'économie et des finances parce qu'on n'a pas reçu la promesse faite par la moitié des partenaires. En ce qui concerne les partenaires de grands projets qui attendent de voir plus clairement ce qui se passera dans le pays avec cette instabilité, si les différends au Parlement sont résolus et que le programme du gouvernement élu en 2014 présenté à la réunion des donateurs reste en vigueur, cela peut faciliter pour aller à un rythme beaucoup plus rapide, a déclaré Gérald Martins. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Au Niger, l'opposition qui avait boycotté dimanche le second tour de la présidentielle remportée par le président sortant Mahamadou Issoufou a refusé de participer aujourd'hui à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale élue le 21 février lors d'un scrutin à la proportionnelle régionale couplé au premier tour des présidentielles. Aucun des 53 députés de l'opposition ne s'est présenté au palais des congrès qui remplace provisoirement l'Assemblée nationale. Le président Issoufou dispose d'une large majorité parlementaire. Sa coalition est remportée 118 des 171 sièges. Il a proposé hier à l'opposition de se joindre à un gouvernement d'union nationale. Pas de réponse des opposants jusqu'à présent.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, élection au Congo-Brazzaville. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, un des principaux candidats d'opposition, rejette les résultats annoncés par la CENI, la Commission électorale nationale, qui donne la victoire au président Denis Sassou Nguesso avec 60,39% des voix. Le général Mokoko exhorte la population congolaise à la désobéissance civile pour protester contre ces résultats frauduleux. On l'écoute au micro d'Idriss Fall.
Le vote tel qu'il a été publié par le ministre de l'Intérieur est un vote que je n'accepte pas puisque je suis avec tous les autres après la compilation des procès verbaux en notre possession. Le président Sassou ne pouvait pas gagner tel qu'il a gagné. Il a eu des 100% dans des endroits où il n'était pas sûr que 30%, 99% dans la partie nord, ce n'est pas possible. Dans mon propre fief, il m'a crédité d'une 40% en mettant, je ne sais pas, un taux pratiquement de 50% d'abstention. Non, ça c'est... Nous sommes tous convaincus qu'il ne pouvait pas gagner.
Maintenant, vous appelez le peuple à se lever pour barrer la route à la forfaiture. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le vote du peuple n'a pas été respecté. Les résultats qui sont là sont des résultats qui ont été falsifiés, comme je l'ai dit dans le message que je lance au peuple.
Et quelle forme cela va avoir?
Lorsqu'il y a une dictature qui s'installe dans le pays, nos textes fondamentaux demandent au peuple, par la voie légale de la désobéissance civile, de barrer la route à l'imposture.
Vous savez que vous prenez des risques dans un pays comme le Congo.
Écoutez, c'est des risques. Hein, quand on accepte, d'aider son peuple et qu'on a le bon droit, moi, je suis convaincu que j'ai l'option populaire. Et nous sommes 5 qui sont pour l'alternance démocratique. Ben, nous sommes convaincus, nous avons les procès-verbaux qui sont en notre faveur et on pense que le président Sassou nous a volé notre élection.
Si Sassou n'accepte pas le pays, il y a déjà eu une guerre civile là-bas.
Non, on n'ira pas jusqu'à... Nous, on n'a pas d'armes, nous. Nous, on n'a pas d'armes. C'est lui qui quadrille la ville, qui fait peur à tout le monde. Vous savez que vos confrères ont été malmenés tout simplement parce qu'ils sont venus couvrir la conférence de presse que j'avais tenue. Alors, on est dans quel pays, là? On est dans quel pays?
Et les téléphones qui ont été coupés pendant 4 jours, vous pensez que...
C'était pour préparer cette mascarade de résultats. C'était pour justifier ce résultat, qui est un résultat qui ne correspond pas à la réalité des urnes.
Mais pourquoi vous ne faites pas appel, un recours à la justice?
Oh, quelle justice, mon cher frère, quelle justice. La justice qui est un VOD. Vous avez eu toutes les peines que j'ai eues pour faire valider ma candidature. Non, il n'y a pas de justice ici. Tout est inféodé, c'est sous coupe réglée avec le président Sassou.
Le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidence du Congo-Brazzaville. Attentat de Bruxelles en Belgique maintenant. Les ministres belges de l'Intérieur et de la Justice ont remis aujourd'hui leur démission, immédiatement refusée par le Premier ministre Charles Michel, après les révélations sur des ratés dans la surveillance d'un des kamikazes responsables des attaques. Il y a eu des erreurs au niveau de la justice et de l'officier de liaison belge en Turquie, a reconnu Yann Jambon, le ministre de l'Intérieur. Le Belge Ibrahim El Bakraoui, qui s'est fait exploser mardi à l'aéroport de Bruxelles, avait été intercepté en juillet 2015 par la police turque à la frontière syrienne, puis expulsé vers les Pays-Bas sans réaction apparente des autorités belges. Conflit en Syrie, les forces gouvernementales syriennes sont entrées aujourd'hui à Palmyre, ville historique contrôlée depuis mai 2015 par le groupe État islamique. Ce dernier avait ordonné aux quelques 15 000 civils encore présents sur place de fuir, selon les déclarations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme ce jeudi. Et puis le secrétaire d'État américain John Kerry est en visite à Moscou. À son programme, une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine dans l'espoir de rapprocher les positions des États-Unis et de la Russie concernant le règlement du conflit en Syrie et le sort du président Bachar al-Assad soutenu par le Kremlin. John Lindon.
Arrivé mercredi, John Kerry doit s'entretenir en début de soirée avec Vladimir Poutine au Kremlin. Décidé dans la foulée du retrait partiel des troupes russes de Syrie, annoncé le 14 mars par Vladimir Poutine, la visite du diplomate américain vise à renforcer le dialogue avec Moscou sur la Syrie. Signe de l'influence grandissante de la Russie au Moyen-Orient, John Kerry a par ailleurs rencontré à Moscou Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan de la famille royale d'Abu Dhabi. Bien que parents de la trêve et du processus de paix, les États-Unis et la Russie s'opposent sur la question du départ d'Assad, crucial dans le cadre du règlement d'un conflit qui a déjà fait 270 000 morts et des millions de réfugiés. Pour Washington, le départ du président syrien est une condition pour que les négociations de paix menées par l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, à Genève, aboutissent. Mais pour le Kremlin, seuls les électeurs syriens ont le droit de décider du sort d'Assad.
La lutte contre l'impunité, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a rendu aujourd'hui son verdict contre l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. Karadzic, l'un des principaux protagonistes des guerres en Yougoslavie dans les années 1990, a été reconnu coupable notamment de génocide à Srebrenica où plus de 8000 hommes et adolescents musulmans ont été massacrés en juillet de 1995. Il est aussi coupable de persécutions, meurtres et prises d'otages pendant le conflit en Bosnie. Et pour terminer, visite du président des États-Unis en Argentine. Pour la première fois, un chef de l'exécutif américain a rendu hommage aux victimes de la dictature militaire qui a fait régner la terreur dans le pays de 1976 à 1983. C'était la visite de Barack Obama dans le pays.
Sur VOA Afrique.